18h20 sur France Culture, la voie de l'exégèse coranique reste-t-elle ouverte? C'est le débat à couvre ce soir du Grain à Moudre avec Brice Couturier, Julie Clarini, bonsoir.
Bonsoir, merci Florence Thurme du Grain à Moudre en partenariat avec Book ce soir aux manettes Marie-Christine Closet et Vincent René.
Au XVIe siècle, des humanistes se sont mis en tête d'appliquer les méthodes critiques employées pour l'établissement des textes classiques grecs et latins à l'Ancien et au Nouveau Testament. Érasme, Jacques Lefebvre d'Étaples, Théodore de Bèze ont cherché à repérer les ajouts, les erreurs des copistes en comparant les états des textes sacrés en leur possession avec ceux qu'apportaient avec eux les moines orthodoxes fuyant Constantinople prise par les Turcs. Mais l'exégèse scientifique des textes sacrés chrétiens s'est surtout développée au XVIIe siècle avec le pasteur Louis Capel qui publia en 1650 sa somme intitulée « Critica Sacra ». À l'époque, nombreux étaient encore les théologiens qui, comme le janséniste Pierre Coustel, proclamaient que l'hébreu était une langue aussi ancienne que le monde puisque c'était dans cette langue que Dieu s'était adressé à Adam et Ève. Il est en effet révolutionnaire de proclamer que les saintes écritures elles-mêmes sont des textes, qu'elles ont une histoire, et d'essayer de la reconstituer. Car c'est une manière de dire qu'elles ne sont pas tombées du ciel, que ces textes ont eu des auteurs, qu'ils ne peuvent se donner pour la parole même de Dieu. Or, telle est encore la croyance musulmane orthodoxe. Pour l'islam officiel, l'auteur du Coran, c'est Dieu lui-même, Mahomet n'ayant fait qu'enregistrer sous dictée divine. Le Coran est la parole de Dieu, littérale et incréée. Pourtant, l'exégèse critique n'a pas épargné l'islam. Dès le 8e siècle, les Mutazilites, sous l'influence du rationalisme grec, s'étaient engagés dans la voie de l'exégèse. Et puis, plus près de nous, au 20e siècle, les Égyptiens Ali Abdelrazik, Taha Hussein, le Syrien Sadek Al-Azem ou le Soudanais Mahmoud Muhammad Taha ont tenté de rouvrir la voie de l'exégèse philologique du Coran. Et plus près de nous encore, Nasr Abou Zeid, professeur de sciences islamiques en Égypte, a dû se réfugier en Europe pour avoir osé proclamer « Si le Coran est un texte sacré, la langue arabe dans laquelle il a été transmis est un langage humain ». La revue Books, notre partenaire, réouvre la question ce mois-ci. Et si la voie de l'exégèse était en train de se rouvrir?
Bien, pour en débattre ce soir, nous sommes avec Mahmoud Hussein, qui est le pseudonyme de deux auteurs, qui sont tous les deux politologues et qui sont tous les deux là avec nous ce soir. Ils sont l'auteur de « Penser le Coran, la parole de Dieu contre l'intégrisme ». C'est paru chez Grasset en ce début d'année 2009. Avec nous également Anne-Marie Delcambre, qui est juriste, islamologue, professeur d'arabe littéraire. Elle a aussi un ouvrage signé cette année chez Gallimard, Mahomet, la parole d'Allah. Et puis au téléphone, nous sommes avec Mohamed Enagi, qui est professeur à l'université Mohamed V de Rabat. Il est l'auteur notamment d'un ouvrage paru chez Mille et une nuits, relativement récent, de 2007, qui s'intitule « Le sujet et le mamelouk, esclavage, pouvoir et religion dans le monde arabe ». Et puis nous sommes avec notre partenaire, comme vous dites Brice Couturier, Olivier Postel-Vinet, le directeur de la rédaction et de la publication du magazine Books.
Alors précisément, Olivier Postel-Vinet, chaque numéro de Books a un dossier central et cette fois-ci, le dossier central est précisément consacré à l'islam à l'épreuve du texte, exactement la question philologique que je posais à l'instant. Est-ce que vous pourriez nous présenter le contenu de ce dossier de la revue Books ce mois-ci, Olivier Postel-Vinet?
Oui, à l'origine, c'est un de nos correspondants en Allemagne qui a attiré notre attention sur un débat qui... agite la presse allemande et surtout bien sûr les spécialistes depuis maintenant plusieurs années et qui est peu connu en France, qui n'a pas fait son apparition encore dans la presse française à ma connaissance, bien qu'il remonte maintenant à une dizaine d'années environ. Ce débat est animé d'un côté, pour autant que je le comprenne, par un certain nombre de spécialistes se réclament plus ou moins discrètement d'un agenda chrétien et qui soutiennent des thèses iconoclastes. Et, certains vont même jusqu'à soutenir l'idée que Mahomet n'a pas existé, que c'est une fiction.
On dit la même chose de Jésus-Christ, je vous rassure.
Oui, et on dit aussi que Barack Obama n'est pas né à Hawaï. Plus sérieusement, ils soutiennent la thèse que le Coran à l'origine, et ils fondent leur thèse sur une étude linguistique, à l'origine est en réalité un texte apologétique chrétien destiné à évangéliser l'Arabie. Évidemment, on peut dire que c'est, si c'est le cas, c'est raté. C'est donc un... Ça, c'était donc le point de départ. Un autre point de départ, c'est en fait tout simplement un stagiaire que nous avions dans notre rédaction, un stagiaire d'origine maghrébine, qui a attiré notre attention sur le livre de Mohamed Ennahji, paru récemment en France, avec une préface de Régis Debray. Et c'est un livre très très intéressant et insolite, qui s'appelle Le sujet et le mamelouk, et dont l'objet est de montrer qu'il existe, en se fondant non pas sur les travaux d'historiens, mais en se fondant sur l'analyse de la jurisprudence musulmane, de montrer que les rapports de suggestion sont en réalité sont tout à fait consubstantiels, non seulement à la religion musulmane, mais et en quelque sorte par voie de conséquence, aux rapports entre citoyens et dirigeants dans les pays arabes. Alors à partir de là, ayant un petit peu interrogé autour de nous, nous nous sommes rendus compte de la vaste ignorance dans laquelle nous étions et dans laquelle sont beaucoup de gens à propos de cette question centrale que vous évoquiez, Brice Couturier, du statut du Coran. Qu'est-ce que le Coran? D'où vient le Coran? Par où est-il passé? Que peut-on en dire? Et donc nous avons construit, selon notre méthode, un dossier en nous fondant sur des analyses de livres parus dans le monde sur ce sujet. Alors on commence le dossier par un panorama écrit par un journaliste américain publié avant le 11 septembre qui montre l'état des études coraniques et qui montre un état, si une leçon pouvait être tirée de cet article, c'est que les études coraniques sont loin d'être arrivées à l'état d'avancement des études bibliques et qu'on est encore d'une certaine façon à la préhistoire. J'imagine que je serai bientôt démenti sur ce point.
On va voir ça tout de suite.
Ensuite, nous faisons un article allemand d'un spécialiste allemand qui critique avec virulence ses collègues hérétiques. Un entretien avec Mohamed Ennahji sur cette question du pouvoir dans la société musulmane arabe. Et pour finir, un autre article d'un Américain qui analyse plusieurs livres portant sur les lignes de fracture qui inspirent et agitent le monde musulman depuis les premiers siècles de son existence.
Alors sur l'origine du Coran, je pense qu'on pourrait vous demander votre avis, Mohamed Ennahji, qui est avec nous au téléphone depuis le Maroc. La rédaction du Coran est couramment celle qui est couramment acceptée en islam, elle est attribuée à l'époque du calife Outhman, soit une vingtaine d'années après la mort de Mahomet, mais bien des auteurs occidentaux, donc extérieurs à l'islam, ont tenté des exégèses externes au Coran qui le font remonter à une époque bien plus tardive. Goldziher a cru pouvoir démontrer que de nombreux hadiths, en fait, avaient été inventés par les disciples d'Ali, le fameux gendre et cousin de Mahomet, pour dénoncer la dynastie syrienne des Omeyyades, et que donc le texte du Coran lui-même était un texte en évolution constante, qui avait des rajouts, que c'était un texte qui avait été longtemps un texte vivant, avant d'être fixé définitivement à une époque dont il est difficile de préciser très nettement la date. Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui dans le monde musulman? Est-ce que Mohamed Ennahji, l'exégèse historique et philologique du Coran reste ouverte ou le devient?
Bonjour. D'abord sur cette question du Coran, moi je crois que le fait de lire même l'exégèse, de lire les différents commentateurs du Coran, est en lui-même instructif, car chez Tabari, comme chez Razi, comme chez la plupart des grands commentateurs, vous trouvez différentes versions. C'est-à-dire que quand on parle d'un verset, souvent dit, voilà, il y a telle lecture qui privilégie tel mot, telle lecture qui privilégie telle expression. Donc ce n'est pas déjà ça, à ce niveau, je trouve que c'est formidable, et ce n'est pas quelque chose de caché par les exégètes. Donc il y a déjà là une possibilité de confrontation, je pense, qui n'a pas été faite systématiquement. Maintenant, la façon moi-même dont j'approche le puisque j'ai beaucoup analysé le texte et les exégètes notamment, je pense que tout dépend de la façon, de la posture que nous avons vis-à-vis de ce texte-là, c'est-à-dire des questions que nous nous posons aujourd'hui. Vous voyez ? Et dans ce sens, la société musulmane aujourd'hui, je pense qu'elle est vraiment à un moment où ces questions pourraient être posées à nouveau. Donc, les attitudes diffèrent, c'est-à-dire, ou bien on reste dans le contexte, et simplement on réexamine les choses autrement, on essaye de réaménager, on essaye de s'adapter à la modernité, ou bien on a une position avec beaucoup plus de recul, qui analyse le contenu véritable et qui donc ne traite plus les choses comme des choses sacrées, mais simplement comme un produit historique à un moment déterminé. Et je pense que c'est là l'attitude la plus fructueuse, la plus féconde, qui peut vraiment qui rend tout ce que vous avez dit au départ tout à fait logique. C'est-à-dire qu'il y a eu des luttes, et ces luttes politiques, et ces luttes politiques ont été décisives dans l'établissement de autant du texte coranique que, et encore bien plus dans la tradition prophétique, dans le hadith.
Alors, Mahmoud Hussein, vous êtes avec nous à Paris et vous êtes deux, je le rappelle, il s'agit d'un pseudonyme pour les deux auteurs que vous êtes, de penser le Coran, la parole de Dieu contre l'intégrisme. Et si j'ai bien compris, dans votre ouvrage, vous rappelez à quel point les croyants sont encore prisonniers d'un a priori littéraliste. Alors, pas l'ensemble des croyants, on vient de le dire, mais la grande majorité, cet a priori littéraliste, selon lequel, puisque le Coran est la parole de Dieu, il n'est pas tributaire du temps. Je rappelle que Tariq Oubrou, qui est le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui a écrit un ouvrage dont on a un peu parlé ces derniers temps, explique quelque chose qui explique le rapport des musulmans au texte de cette façon qui me semble assez explicite. Les musulmans approchent le Coran comme un chrétien pourrait approcher le Christ vivant. Et on comprend bien pourquoi le chemin de l'exégèse est étroit. Entre l'exégèse et le sacrilège, la pente est difficile à prendre. Mahmoud Hussein.
Je voulais juste ajouter, parce que avant, malheureusement, pas eu l'occasion de lire le dossier dont parlait Postelvini.
Alors c'est notre faute. Nous aurions dû vous l'envoyer. Je bats ma coulpe.
C'était juste pour dire que et comme l'a fait remarquer rapidement Monsieur Nagy, l'exégèse n'a jamais cessé. Mais il y a exégèse et exégèse. C'est vrai qu'il faut rappeler, et c'est très intéressant à noter, que déjà au 3e ou 4e siècle de l'Égypte, vous aviez des livres d'exégèse où chacun apportait son explication de tel ou tel verset en rapportant 20 autres avant lui. Et en citant les 20, et en disant, ben voici ce que moi j'ajoute. Et en ajoutant même, le plus souvent, mais Dieu en sait plus que moi. Donc il y a, n'oublions pas dans cette tradition, simplement, il y a une exégèse qui est très fermée, très littérale, il y a une exégèse qui est beaucoup plus ouverte. Disons qu'en français, on pourrait faire le rapport avec le couple exégèse-herméneutique, où on peut déjà aller au-delà de l'explication objective des mots et voir leur résonance symbolique, etc. Mais il y a plus encore. Il faut dire aussi que à partir du 19e siècle, il y a de très grands penseurs indiens, pour ne citer que Muhammad Iqbal, et puis avec deux ou trois générations après lui, jusqu'à Fazlur Rahman, qui est mort il y a 20 ans, et qui ont, eux, insisté sur quelque chose qui serait de l'ordre de l'exégèse évolutive. C'est-à-dire que il y a une acceptation de l'apport des Lumières, il y a une acceptation de l'apport de l'historicité des choses. Et à partir de là, comment peut-on comprendre tel ou tel verset, notamment en insistant sur une notion qui est centrale dans notre livre, celle des versets abrogeants et des versets abrogés, puisqu'il y a changement. Alors, pour juste résumer en un mot notre thèse, et on va laisser la parole aux autres, ce que nous avons cherché à dire dans le prolongement de ces réformistes, mais en même temps peut-être plus clairement encore, c'est que il y a un verrou que nous avons essayé de faire sauter de la manière suivante. Un croyant musulman part de cette notion que le Coran est la parole de Dieu. Pas « et » incréé, comme vous avez dit, puisque le « et » est une conjonction trompeuse ici. Elle peut être incréée, elle peut être créée, mais on reviendra peut-être là-dessus. Mais en tout cas, l'idée centrale, c'est le Coran, c'est la parole de Dieu. D'où les littéralistes posent, et puisque c'est la parole de Dieu, Dieu ne se trompe pas. Dieu, de toute façon, est intemporel, et donc sa parole est intemporelle comme lui. Nous, ce que nous avons voulu montrer dans notre livre, c'est que, en prenant une analyse de contenu strict du texte, donc le Coran est la parole de Dieu. À chaque page, vous sentez que c'est Dieu qui parle. Eh bien, la parole de Dieu, donc avec origine divine, n'en a pas moins une dimension historique. On ne peut pas faire autrement que de la voir, à moins de s'aveugler. Et c'est sur 200 pages, notre démonstration, montrer que, tout en admettant la prémisse que c'est la parole de Dieu, que c'est Dieu qui parle au prophète Mohammed et à travers lui à ses compagnons, il y a un souci constant, non seulement de développer les thèses centrales de l'islam, qui sont d'ailleurs en continuité directe avec celles de la Bible et des évangiles, non seulement, disons, la dimension métaphysique et spirituelle de l'islam, mais aussi toute une série de considérations tenant compte du fait que Dieu, à ce moment-là, parlait aux Arabes du 7e siècle. Donc, dans un contexte particulier où il se préoccupait de leur place dans la vie, de leur destin ici-bas, et donc il était intervenu dans toute une série de considérations conjoncturelles avec parfois des commandements qui sont conjoncturels. Voilà un peu notre démonstration. Donc, on peut pas dire que parce que c'est la parole de Dieu, il n'y a plus rien à dire et tout doit être accepté littéralement partout et toujours. C'est un peu cet angle d'attaque que nous avons pris pour accrocher cette question.
Bref, il y a exégèse et exégèse. Personnellement, j'ai du mal à comprendre comment un Dieu éternel et transcendant peut prendre la parole à un moment donné de l'histoire humaine et incarner cette parole dans un texte, dans une langue précise, à un moment précis de l'histoire. Pour moi, ça reste assez mystérieux. Mais enfin, vous me direz que chez les chrétiens, il y a bien que l'incarnation.
Non, mais pourquoi?
Elle s'est adressée à Moïse, il y a eu la Bible, elle s'est adressée où le Christ est là, et avec le Nouveau Testament. Et les musulmans acceptent le fait que ces deux textes soient des textes sacrés. C'est-à-dire, ce sont les paroles de Dieu. Ils disent effectivement qu'au bout d'un certain temps, ça, il y a des choses qui ont été ajoutées à ces deux textes ou enlevées de ces deux textes, mais ils acceptent l'idée. Alors, ils acceptent l'idée qu'il y avait des livres sacrés qui ont occupé une place à un certain moment et qui ont été, comme disait Adel à propos du Coran, abrogés par un autre texte.
Non, mais je voulais juste te dire que vous avez tout à fait le droit de ne pas admettre l'idée que Dieu, dans sa transcendance, s'adresse aux hommes dans le temps. Ça, c'est un autre débat.
Dans une certaine langue, un certain peuple, à une certaine date de l'histoire.
Encore que il l'ait fait avant, ailleurs.
La Bible, c'est pas écrit par Dieu. C'est écrit par des prophètes.
Un juif croyant vous dira c'est la parole de Dieu, de même que pour les évangiles, même si c'est indirect. Il vous dira que c'est la parole de Dieu aussi. Mais encore, c'est d'ailleurs, un autre débat.
Les évangiles, ce sont des témoignages écrits par des disciples longtemps après la mort du fondateur. Oui. C'est pas la parole directe recueillie.
Ce que nous voulons, ce sur quoi nous voulons insister, c'est pas de convaincre quiconque que Dieu a pu parler. C'est de dire, vous voulez lire le Coran, lisez-le les yeux ouverts. Le Coran dit à longueur de page, c'est Dieu qui parle, mais il parle en s'inscrivant dans le temps, en disant à Mohammed, les juifs t'ont dit ça, réponds-leur ça. Les polythéistes pensent que il faut leur dire cela. Il intervient parfois dans une conversation pour lui dire, mais non, ce n'est pas ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il faut dire. Donc nous sommes avec cette donnée-là. C'est Dieu qui parle, mais Dieu s'inscrit dans le temps et inscrit sa parole dans un certain nombre de circonstances. Comment faut-il, 14 siècles après, lire ces circonstances? Comment peut-on, si on admet cette lecture, comment peut-on tenir tous les versets pour éternels Alors que certains sont si visiblement conjoncturels. Voilà.
Alors on vient de voir qu'il existe évidemment des travaux d'exégèse sur le texte. Alors la distinction était intéressante tout à l'heure faite par Mahmoud Hussein entre herméneutique et exégèse. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour le grand public, alors en plus que nous sommes en Europe, c'est très très méconnu, Anne-Marie Delcambre, et même pour l'immense majorité des croyants. Il y a une époque dans le monde musulman, je lisais un article où Muhammad Abdou croisait le fer avec Farah Antoun, qui lui-même publiait dans sa revue Voltaire et Darwin. Ça, c'était il y a un siècle. On force est de constater qu'aujourd'hui, on n'a pas cette image d'une effervescence intellectuelle ouverte et publique du monde musulman. Alors, est-ce que Anne-Marie Delcambre, il y a eu un point de rupture? On dit que parfois, dans les années 70, beaucoup de choses ont basculé et justement, ces mouvements-là se sont essoufflés, ces mouvements d'exégèse et de tentatives de réinterprétation du Coran.
Je ne crois pas qu'il y ait... Alors, je me situe, je ne suis pas ni islamophobe ni islamophile, mais islamo-réaliste. Et j'ai lu...
arabisante.
Arabisante. J'ai lu le dossier L'islam à l'épreuve du texte, qui est très bien fait et qui cite toutes les études de recherche de... Mais moi, je
donc
me
de
mets...
Du magazine Books, qui est en
question. Du magazine Books, tout à fait. Mais je me dis, mais les gens ne vont rien comprendre, parce que pourquoi il y a ce blocage? Mais ce blocage, il est dans votre religion, dans la religion musulmane. Si j'ouvre, par exemple, la sourate 3, n'est-ce pas? Verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur le toit le livre, d'accord? Il s'y trouve des versets non équivoques, qui sont à la base du livre, et d'autres qui peuvent prêter à équivoque. Mutashabiha, c'est « Huwallazi anzala alayka al-kitab », etc., etc. Bon, alors, alors vous allez me dire, donc par conséquent, on demande que Dieu est plus... il faut accepter de ne pas comprendre. Même Mohamed Harkoun, dans lecture du Coran, le dit. Alors vous allez me dire, mais l'exégèse, il y a eu des exégèses de Bukhari, de tout. Et si je prends les Nawawi, vous connaissez, lu par tout le monde, par le grand public musulman. Hein, parce que je dis entre parenthèses que le Coran...
Par un public,
oui,
un petit public.
Oui, par un petit public, 95% des musulmans.
Non.
Nawawi.
C'est
un détail. Et là, j'ouvre, que ce soit n'importe quel hadith, je vois que toute innovation est blâmable. C'est une hérésie, bid'a. Et que celui qui commet cette hérésie, il va carrément en enfer. Vous les connaissez très très bien. Alors pourquoi ne pas le dire? Les gens ne comprennent.
Mais dire quoi?
Mais dire que justement, il y a une fermeture contre laquelle des juristes, parce que c'est une religion de la loi, je vous le rappelle, c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas, les juifs le comprennent mieux, c'est une religion de la loi. Et contre cette fermeture juridique, il y a eu plein de gens qui se sont insurgés. Bien sûr, les musulmans ne sont pas construits autrement que d'autres personnes. Et à chaque fois, on les ramenait à l'ordre parce que l'innovation bid'a, c'est blâmable, et que le Coran étant l'équivalent...
Vous voulez qu'on parle un peu de ça?
Oui, je vous en prie, allez-y.
Le problème, quand vous dites bid'a,
hérésie, innovation blâmable.
Innovation. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a eu beaucoup de discussions à propos de ce que c'est l'innovation. L'innovation, et il y a eu des divergences. On a dit il y a des innovations qui sont bonnes pour la société, pour le peuple, pour les gens. Il y a des innovations qui ne le sont pas.
J'ai dit blâmable, innovation
oui,
blâmable.
Oui, mais alors on accepte l'idée qu'il y a des innovations qui sont acceptables et bonnes pour la société et pour les hommes. Alors ce n'est pas une fermeture. C'est-à-dire, la notion a été évoquée par certains, mais tout de suite, il y a eu la riposte. Il ne faut pas fermer la porte. D'autre part, attendez. Si on regarde les sociétés musulmanes aujourd'hui, on parle de l'islam, on parle de la fermeture, mais en réalité, les sociétés sont tellement différentes, et l'islam appliqué dans chaque société est tellement différente, qu'on ne peut pas généraliser. Par exemple, dans les pays arabes musulmans, jusqu'à très récemment, jusqu'à aujourd'hui, disons, une femme ne peut pas être premier ministre ou présidente. Dans un pays islamique comme le Pakistan, comme le Bangladesh, comme l'Indonésie, une femme peut devenir présidente.
Donc l'islam,
alors, il y a, alors
donc
là,
l'islam
il y a,
est en évolution. Mais revenons à notre sujet de départ, hein, à savoir l'exégèse du texte coranique fondateur. Parce que là, on est effectivement dans les évolutions. Les évolutions de la société islamique sous l'effet de la modernité, c'est une chose. Mais la question de l'exégèse du texte fondateur du Coran, ça en est une autre. Or, précisément, Mohamed Enagi, vous êtes avec nous depuis le Maroc. Or, c'est effectivement ce que vous faites, parce que vous-même, vous êtes un linguiste, et que vous posez des questions au texte arabe du Coran sur les doubles sens de certains des mots qu'il comporte, et c'est ce qu'on dit dans la revue Books, en particulier dans votre interview. Vous dites par exemple que le mot qui veut dire fidèle de cette religion, c'est aussi le mot qui veut dire esclave. Dans quelle mesure vous êtes abd? Est-ce que, dans quelle mesure, dans un pays comme le Maroc où vous travaillez, vous êtes enseignant, professeur d'université Mohamed Enagi, il est possible de dire ce genre de choses? Que je rappelle quand même que, certes, comme on disait dans le début de cette discussion, l'exégèse coranique a été ouverte très tôt, mais qu'elle s'est refermée aussi fort tôt. Je parlais tout à l'heure du Soudanais Mahmoud Mohamed Taha. Il a été condamné à mort et exécuté. Quant à Nasr Abu Zaïd, le professeur égyptien, qui a aussi réouvert l'exégèse coranique, il a dû s'exiler aux Pays-Bas parce qu'il était menacé dans son propre pays, l'Égypte. Donc on a le sentiment qu'il y a une espèce de lutte politique en réalité, comme on en a connu dans l'Europe chrétienne des 16e et 17e siècles, entre les autorités religieuses et théologiques qui veulent empêcher qu'on aborde les textes sacrés, les écritures saintes, du point de vue de la philologie et des méthodes critiques d'établissement des textes, et puis des gens, des esprits libres, qui estiment qu'un texte est un texte et qu'il est redevable des méthodes de la philologie critique, rien que pour son établissement. Et on a le sentiment qu'effectivement, dans certains pays comme le vôtre, le Maroc, la Tunisie, et bien sûr l'Europe, qui est un continent extrêmement libre, cette exégèse est en train de se réouvrir dans les sciences musulmanes, et que finalement c'est une bonne chose pour tout le monde.
Absolument. D'abord, je voudrais dire, je voudrais signaler une chose très importante, c'est que depuis quelques décennies, la recherche de façon générale dans nos pays est extrêmement faible parce que l'université est dans une situation de crise très très dure. Donc ce n'est pas simplement l'exégèse qui a un problème, c'est tous les pans de la recherche. Ça, c'est une chose très très importante. Deuxième chose, moi, je ne crois pas qu'il faille faire supporter à l'islam tous les maux des pays arabes. Et je pense que là, avec madame, il y a une différence pour moi fondamentale. Si le monde musulman, et notamment le monde arabo-musulman, n'a pas évolué, souvent, il s'agit de questions économiques et sociales. Il s'agit de l'environnement. N'oublions pas que ces pays sont dans un milieu désertique. N'oublions pas que l'eau est extrêmement rare. Nous ne sommes pas du tout en Europe. Et lorsqu'on lit en Europe les travaux de Georges Duby et de Fernand Braudel et de tous les spécialistes du Moyen-Âge, on se rend compte que le changement en Europe n'a pas commencé par le christianisme, il a commencé d'abord par l'avènement de la charrue et par les transformations extraordinaires qui ont eu lieu dans l'agriculture et par la suite dans l'industrie. Donc soyons honnêtes un petit peu et juste vis-à-vis du monde musulman, c'est d'abord une problématique économique où se situe son ouverture ou sa fermeture. Ce n'est pas, nous ne sommes pas prisonniers du Coran. Ne l'oublions pas. C'est la culture musulmane qui permet à ces différents pays depuis quelques siècles de survivre. Ça, c'est une chose très très importante. Maintenant, la pratique de l'islam dans les sociétés musulmanes aujourd'hui. Je peux vous assurer que dans un pays comme le Maroc, la société, les pratiques sociales sont loin de toutes les représentations qu'on en a en Europe et n'ont plus rien à voir dans leur majorité avec l'enseignement coranique. Ça, maintenant, il n'y a pas encore une révolution culturelle dont on n'a pas les fondements ni économiques ni autres pour qu'une société puisse se parler clairement et disons afficher sa rupture. Il y a une certaine pudeur en reste parce que en plus les pays musulmans sont attaqués de partout, donc la culture musulmane sert de bouclier. Alors maintenant, revenons à l'exégèse, puisque vous avez dit que dans mon texte, c'est vrai que j'ai été très loin, et j'en suis très heureux. Pourquoi? Parce que quand M. Harkoun et d'autres nous disent constamment de penser l'islam, nous, on ne se contente pas de penser l'islam. Nous, on va beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire on remet en cause les fondements divins de la religion. Et pourtant, il n'y a pas de problème. Nous pouvons, à la condition, il y a une condition essentielle qui est de s'exprimer scientifiquement, de ne pas attaquer simplement pour attaquer, de ne pas provoquer, de ne pas caricaturer. Parce que madame, quand elle a parlé au départ et en commençant à citer des versets, vous savez, moi, franchement, je suis un petit peu ennuyé parce que la méthode des islamistes chez nous est ça, c'est ce qu'on appelle des distributeurs automatiques de versets. C'est-à-dire que dès que vous parlez, ils vous disent « Ah, il y a tel verset ». Mais je suis désolé, c'est pas comme ça qu'on avance. Si on veut avancer, on doit poser des questions clairement et on doit sortir simplement de citations de versets qui, évidemment, peuvent fermer. C'est pas fermé du tout. Et si vous lisez les grands commentateurs, je peux vous assurer, et moi je l'ai fait, beaucoup plus loin qu'un certain nombre d'autres aujourd'hui qui le font, sur la base des exégèses de l'exégèse existante, on peut aller beaucoup plus loin simplement en changeant les angles d'attaque, en changeant les problématiques. Parce que ces gens-là ont analysé le Coran et la façon dont ils l'ont analysé, même si c'est dans le cadre du paradigme musulman, ils l'ont analysé en le situant dans la seule culture, en revenant aux seules sources possibles pour l'éclairer, c'est-à-dire la culture arabe, qu'ils maîtrisaient parfaitement beaucoup plus que nous. Donc nous sommes en mesure, à partir de ce qu'ils disent, d'aller beaucoup plus loin, à condition de se dire, tiens, ben, je vais analyser Mohammed tout simplement en tant que personnage historique, en tant que dans le cadre de la création, de la mise en place d'une structure nouvelle, d'un État nouveau, etc. Et on sort. On ne se laisse plus emprisonner dans une. On ne parle plus simplement avec des textes, mais on parle, ces textes en relation avec une réalité. Moi, je pense qu'il faut un petit peu, qu'il faut pas confondre les problèmes qui se posent à l'islam en Europe et les problèmes qui se posent à l'islam dans son milieu. Dans son milieu, notre problème, c'est de nous développer, c'est d'avancer, c'est d'opérer de véritables révolutions économiques et culturelles. En Europe, c'est un autre problème. C'est un problème d'identité, c'est un problème d'intégration. Et bon, mais là, on ne va pas aborder ce problème parce qu'il est différent. Donc vous voyez que je pense que la façon de poser le problème est décisive.
Je suis très intéressé par ce que vous dites et je rappelle le titre de votre livre, Le sujet et le mamelouk. Je voudrais citer un de nos collègues de France Culture, qui est un grand écrivain par ailleurs, c'est Abdelwahab Meddeb. Dans Le Paris de civilisation, il écrit la chose suivante à propos précisément de l'exégèse du Coran. Il écrit « Il est légitime de procéder à une interprétation ouverte qui affranchit le sens pour jouer de son indétermination. » Alors le fait même qu'il existe en islam quelque chose comme les docteurs de la loi prouve bien que ce texte est considéré par les musulmans comme susceptible d'interprétations multiples et donc qu'il est ouvert. Est-ce que vous ne croyez pas, vous, Mahmoud Hussein, comme Abdelwahab Meddeb, que le fait que l'islam est en train de s'implanter en Europe lui permet de bénéficier des libertés que nous avons conquises au XVIe, XVIIe siècle, comme je le rappelais, face aux textes sacrés chrétiens, qui sont depuis donc cette époque-là susceptibles d'une interprétation philologique, qui considère le texte comme un texte, avec ces dates d'apparition, avec ses thématiques et son vocabulaire propre, qu'on peut donc comparer, dont on peut chercher aussi à voir quelle est l'histoire, quels sont les ajouts. Est-ce que vous croyez pas que en Europe ou dans les pays du Maghreb qui bénéficient maintenant d'un certain niveau de liberté intellectuelle, comme en témoigne maintenant Mohamed Ennahji, on pourrait pas réouvrir cette exégèse et la pousser un peu plus loin qu'une simple exégèse interne?
Oui, alors. Je vais répondre à votre question, mais je veux rétablir quelque chose qui me semble, dans votre discours, se résumer en une longue nuit qui commencerait depuis quelques années. Non, ce n'est pas vrai. Non seulement, je ne veux même pas revenir en arrière, je voudrais dire que dès le 19e siècle, 19e et 20e siècle, il y a eu une pensée réformatrice, il y a eu une ouverture qui introduisait et l'histoire et d'ailleurs l'acquis des Lumières.
Mais est-ce que ce n'est pas plutôt depuis 30 ans que ça s'est refermé? C'est ça la
question. Exactement. Oui. Alors voilà, mais ça c'est autre chose.
Ah oui.
Ça ne veut pas dire.
Enfin, c'est pas tout à fait autre chose. On est là pour en parler.
Non, c'est autre chose parce que ça veut dire que le monde musulman.
Qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans?
Le monde musulman pendant près de 200 ans a permis cette éclosion-là. N'oublions pas qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des pays musulmans, de l'Indonésie à l'Égypte, en passant par la Tunisie et l'Algérie, vous aviez des régimes séculiers. Bah, donc, il faut pas non plus faire comme si l'islam était... Bon, ça c'est juste pour corriger cette notion-là. Alors, il y a fermeture depuis 30 ans, il y a le wahhabisme, il y a toute une série de causes, malheureusement on n'a pas le temps d'en discuter, qui ont accéléré ce mouvement. Et il y a effectivement un combat moderne avec des noms que vous avez cités. Il y en a d'autres. N'oublions pas tout de même Abdelmajid Sharfi, Mohamed Sharfi qui est mort l'année passée. Enfin, il y a quand même de la pensée là-dedans. Bon, ce que nous voulons dire.
Il y a
dire,
un système de lumière. Il ne date pas d'avant-hier, c'est vrai.
C'est ça. C'est important de le dire. Alors, ce que nous voulons dire simplement, c'est que il y a plusieurs angles d'attaque. Vous avez cité Abdelhamid Meddeb. Mohamed Najib parle d'autre chose. Mohamed Harkoun, bien entendu. Nous avons dit, nous sommes intéressés à un angle d'attaque particulier et qui est justement une sorte de réponse a priori même à madame. C'est-à-dire que même si on admet que le Coran est la parole de Dieu, pour pas faire autrement puisque ça se sent, c'est Dieu qui parle dans ce texte. Ensuite, on croit ou on croit pas en Dieu, c'est autre chose.
Non, et comment Dieu peut dire tu adores comment Dieu peut-il dire lui-même c'est toi que nous adorons, c'est toi dont nous implorons secours.
Oui,
qui est le début de la Fatiha.
Il dit comment Dieu peut-il dire à lui?
Ah non, il dit c'est toi que nous adorons.
Oui.
Et Dieu peut pas dire c'est toi que nous adorons.
Mais oui, mais c'est-à-dire qu'il
c'est Mohamed qui dit ça.
Mais non, mais tout au long Dieu dit à Mohamed dis-leur cela. Ça, c'est une... Il faut savoir comment le Coran s'exprime. Mais je ne voudrais pas arrêter.
Il y a un chapitre dans la pensée du Coran où nous expliquons comment le Coran a été rédigé. Alors, ça explique... on ne peut pas résumer le chapitre ici maintenant parce que c'est long. Mais les paroles, c'est-à-dire le prophète disait que quand il recevait les versets du Coran, elles n'étaient pas formulées. Ils n'étaient pas formulés dans une langue précise. C'est lui qui formulait ça plus tard. Ça lui est arrivé. Alors, ça peut...
Donc, Dieu ne parle pas arabe.
C'est
Mohamed qui parle arabe.
Ça pose un problème. Non, mais attendez, ça pose un problème. Est-ce que c'était... Les versets étaient révélés, formulés déjà dans la langue arabe, ou... Ça arrivait au prophète. Alors ça, c'est un autre problème, mais ce n'est pas notre sujet. Ce que je veux dire ici, à propos de ça, c'est à propos de votre question. Ce qu'il y a d'autres facteurs qui interviennent dans la réforme de l'islam. Il y a d'autres facteurs, et un facteur est très important. C'est qu'il y a une lutte entre le christianisme et l'islam depuis 14 siècles. Et maintenant, ça devient un problème de dignité pour les musulmans. C'est un autre facteur.
Anne-Marie Delcombe.
Mais là, je vais revenir parce que c'est quand même l'objet de cette émission, la revue Books, parce que votre texte, ce dont parle la revue Books, c'est que Christophe Luxemburg, de l'extérieur, s'est demandé si ce n'était pas de l'araméen, parce que quand vous prenez par exemple Laylatul Qadr, dis-moi ce que c'est que la nuit du destin, c'est mieux que mille nuits, etc. Mais c'est la nuit de Noël. Vous reprenez une épître de Saint-Pierre et vous retrouvez exactement la même chose. J'ai bossé, j'ai travaillé. Mais oui, beaucoup. Et je suis pour. Je pense qu'il y a eu plagiat. Qu'à l'époque, dans ce substrat, enfin, voyez, dans ce monde, eh bien, l'araméen, le syro-araméen, tout ça a été utilisé. Et que les musulmans, c'est vrai, là je dis que cette étude dans Book c'est essentiel, parce que au lieu de rester, est-ce que le prophète a dit, et Dieu sait si, comme le pauvre, enfin pas le pauvre, Boubacar dit, même dans le Coran tolérant, il nous met le djihad à la fin, bravo pour la tolérance, tandis que là, en se disant, même le paradis musulman, d'accord, au lieu d'avoir des houris, il y aura des grappes de raisin blanc, c'est moins drôle. Mais c'est peut-être beaucoup plus spirituel quand même. Il faut revoir le texte même. Il y a eu plagiat, il y a eu insertion de l'araméen. Il faut revoir ça. Moi, je suis absolument pour.
Non, je suis désolé parce que l'émission va s'arrêter. Je voudrais juste dire que dans la revue Books, dont nous sommes partenaires et dont nous sommes très fiers d'être partenaires, particulièrement ces mois de novembre-décembre, parce que c'est un très très bon numéro de la revue Books, vous trouverez la suite et les compléments indispensables à cette discussion. Donc, l'énigme du Coran, c'est dans Books daté des mois de novembre et décembre 2009. C'est en vente dans toutes les bonnes librairies et nous avons reçu Olivier Postel-Vinet, qui est le directeur de la rédaction de cette revue. Merci beaucoup à Mahmoud Hussein, donc nos deux auteurs qui viennent de publier. Pensez le Coran, la parole de Dieu contre l'intégrisme, c'est chez Grasset. Merci à Mohamed Enagi d'avoir été avec nous au téléphone depuis le Maroc. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Mohamed V de Rabat et que vous venez de publier Le sujet est le Mamelouk, esclavage, pouvoir et religion dans le monde arabe. Merci à Anne-Marie Delcambre, islamologue, professeur d'arabie, excusez-moi, je n'ai vraiment pas fait exprès. Vous êtes l'auteur de Mahomet, la parole d'Allah et de quantité d'autres ouvrages consacrés à l'islam. J'ai sous les yeux l'islam des interdits chez des clés de Bourvet. par exemple.
Rendez-vous demain à 18h20 après le journal de la rédaction. Jusqu'où ira la fronde à droite, ce sera